Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre, les rediffusions d'été, c'est tout de suite. Kateb Yassine, 1929-1989. Une vie, une œuvre pour ses rediffusions a décidé de jouer au jeu des pères. Père d'amis ou d'amoureux, un compère le samedi et sa moitié le dimanche. Hier, nous étions avec Frantz Fanon, alors aujourd'hui, une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui était son ami, de celui qui était écrivain, de celui pour qui la langue française était un butin de guerre, de celui qui a créé un théâtre oral en berbère. Quand on regarde les images que l'on a de Kateb Yassine, on remarque tout de suite son regard, un regard doux, tantôt rieur, tantôt songeur. On a envie d'engager la conversation avec lui. Sur les clichés, il pose souvent dehors, en blouson fourré, en canadienne doublée, les mains dans les poches, le mégot à la bouche, il a l'air prêt à partir. Parfois, il est assis, sur un seuil, un perron ou une marche, il est en chemisette, en espadrille, un chapeau à côté de lui, il prend l'air. Jeune, il pose à sa table d'écrivain, couverte de feuilles, le stylo à la main, et il est beau comme James Dean. Vieux, il est toujours aussi beau, le front haut, les sourcils expressifs, toujours songeur, toujours un peu grave, avec un demi-sourire. Il n'est pas dupe. Alors allons de nouveau à la rencontre de Kateb Yassine dans un documentaire de Marion Thibat réalisé par Ghislaine David.
Nous avions préparé deux verres de sang. Nejma ouvrait ses yeux parmi les arbres. Un luth faisait mousser les plaines et les transformait en jardins, noirs comme du sang qui aurait absorbé le soleil.
Une vie, une œuvre. Kateb Yassine, le poète errant, 1929-1989, par Marion Thibat.
Il est entré dans des domaines qui sont tout à fait étrangers, enfin, au génie de son peuple, qui est le roman, qui est le... Moi, personnellement, j'ai horreur du roman, sauf quelques-uns, Kateb, Faulkner ou quelques autres. Mais bon, on trouve que c'est passer de la chanson de geste comme expression au roman, et surtout psychologique, c'est quelque chose d'épouvantable. Enfin, le côté taré qu'un roman peut avoir, enfin, du point de vue de l'écriture. Enfin, et sauf, évidemment, je dis, c'est Faulkner ou lorsque c'est Kateb.
ذا شيء مش فيض سوى ثلاث أيام ذي العمريو يسمن زوم وليو يزهام أمزوني اللي تسارو
نجمة ou le poème ou le couteau, l'histoire de l'Algérie et de ses convulsions. L'écriture a surgi d'un choc. À l'âge de 15 ans, la vision de la mort lors d'une manifestation durement réprimée à Sétif, la folie de sa mère qui en a résulté et l'expérience de la prison où Kateb Yassine découvre la grandeur du peuple analphabète. La mort, la prison et l'amour, celui qu'il éprouve pour sa cousine, Nejma, de 10 ans son aînée, est mariée. Le poème surgit. C'est une ordalie, un espoir de résurrection. Armand Gatti l'a rencontré quand il avait à peine 20 ans. Il était docker et poète.
Il partait du fait que ce qu'il écrivait devrait être dit en arabe, et malgré les efforts de Tahar Kateb, et Tahar Kateb était un traducteur formidable, enfin, qui en plus était son cousin, parce que Kateb, ça veut dire écrivain, et ils s'appelaient tous les deux Kateb, ils étaient tous les deux écrivains. Yassine, c'est un verset du Coran, hein, et on confond très souvent, on dit Yassine parce que Kateb Yassine, alors on fait de Kateb le prénom et de Yassine le nom, ce qui est toujours un peu concernant, enfin, bon, ayant connu la personne que c'était. Et donc, pensait-il que c'était l'arabe qui, à un moment donné, et il y a eu des tentatives, et c'est Tard qui lui a dit, c'est pas la peine, c'est pas ta langue, et c'est pas notre langue. À ce moment-là, disons, Kateb, ou Yassine, ou le mufti, parce que nous, on l'appelait le mufti, c'était le mufti de l'île Saint-Louis, parce qu'on habitait là-bas. Alors tous les amis, ils sont mis, alors comment va le mufti, comment, etc. Et comme c'était à l'île Saint-Louis, on habitait à l'étage, parce que il habitait à peu près plus de 10 ans, hein, chez moi. Et donc, c'était la famille, quoi. C'était le frère. Et disons que là-dessus, évidemment, les problèmes de langue, c'était ça, son grand souci. Son grand souci, bon. Or, s'il y avait une langue méditerranéenne, c'était bien méditerranéenne, mais au sens même arabe, j'allais dire algérienne, quoi. C'était le français de Kateb. Je ne dis pas n'importe quel français, je dis le français de Kateb. Qui d'ailleurs était un français très beau, très pur, très bon, mais avec son souffle à lui, son génie à lui, qui fait que c'était pas un français de n'importe qui, c'était une très belle langue et une langue méditerranéenne, enfin tout à fait, enfin c'est... et donc il y a eu toujours cette espèce de recherche de sa vérité, et alors je suis né en Algérie, donc je dois m'exprimer comme un Algérien, donc le côté un peu, enfin c'était inexistant chez lui, mais quand même ça avait son importance, un peu le côté nationaliste, je suis Algérien, et ça, et à une époque très assez fort, assez, et donc à ce moment-là, disons que il y a eu la révélation, mais c'est vers la fin de sa vie. Il y a eu cette révélation que c'est sa langue, alors que c'était le tifanar, que c'était la langue berbère. Alors là, il a pris brusquement l'impression que l'Algérie était, disons, n'avait pas échappé à la colonisation. Que, bon, après avoir été colonisée par les Arabes, elle a été colonisée par les Français et de nouveau elle a été colonisée par les Arabes.
À l'origine, Kebloot, littéralement la corde cassée, l'ancêtre fondateur, venu d'Espagne, énigmatique, incompris. Kebloot devient Kateb, Kateb, écrivain, parce que les Kebloutis sont des lettrés et que la colonisation française décide de démembrer les tribus. Yassine Kateb se fait appeler Kateb Yassine, par ironie peut-être, pour singer l'état civil français ou pour brouiller les cartes et retrouver la tradition algérienne de l'usage du prénom. 1956, à l'occasion de la parution de Nejma, qui deviendra un livre culte, le symbole de la conscience historique de tout un peuple, document d'archives, Kateb Yassine.
J'ai, au début, évidemment, essayé, moi aussi, les formes traditionnelles. Ce n'est pas par refus arbitraire que je m'en suis par la suite passé. Et je me suis rendu compte que ce qu'on appelle traditionnellement le récit, c'est-à-dire l'écriture relativement simple qui consiste par une ligne à juxtaposer arbitrairement des situations et des actions et des atmosphères, enfin tout ce qui compose un roman, je me suis rendu compte que ça restait enfin très en deçà de ce que je voulais dire, et j'ai été en définitive saisi par une sorte de vertige de l'expression qui a finalement été pour moi le centre même de la création poétique et littéraire. À partir du moment où j'ai été amené à rejeter toutes les anciennes formes, ce vertige lui-même me ramenait toujours au même point, le point d'où je partais et d'où je revenais, toujours insatisfait. C'est ainsi que s'est peu à peu organisé ce vertige, qu'on pourrait appeler concentrique, dans la mesure où il m'a conduit à tracer des cercles qui ne sont pas tous réguliers, qui ne sont pas parfaitement concentriques, mais qui, en me permettant de défricher autour de ce monde, m'ont conduit à, la forme de, à cette forme de roman tout à fait particulière.
Ce sont des âmes d'ancêtres qui nous occupent, substituant leur drame éternisé à notre juvénile attente, à notre patience d'orphelin, ligotés à leur ombre de plus en plus pâle, cette ombre impossible à boire ou à déraciner, l'ombre des pères, des juges, des guides, que nous suivons à la trace, en dépit de notre chemin, sans jamais savoir où ils sont, et s'ils ne vont pas brusquement déplacer la lumière, nous prendre par les flancs, ressusciter sans sortir de la terre ni revêtir leurs silhouettes oubliées, ressusciter rien qu'en soufflant sur les cendres chaudes, les vents de sable qui nous imposeront la marche et la soif jusqu'à l'hécatombe où gît leur vieil échec chargé de gloire. Celui qu'il faudra prendre à notre compte alors que nous étions faits pour l'inconscience, la légèreté, la vie tout court. Ce sont nos pères, certes, des ouèdes mis à sec au profit de moindres ruisseaux jusqu'à la confluence, la mer où nulle source ne reconnaît son murmure, l'horreur, la mêlée, le vide, l'océan. Et qui d'entre nous n'a vu se brouiller son origine comme un cours d'eau ensablé, n'a fermé l'oreille au galop souterrain des ancêtres, n'a couru et folâtré sur le tombeau de son père.
Najet Rada, l'imaginaire, Katébien. Les ancêtres, les femmes.
L'imaginaire katébien, c'est quelque chose de d'immense. Et c'est bon, parler de l'imaginaire katébien, ce serait tout l'imaginaire maghrébin. Mais je pense que ce qui fait la force de l'univers imaginaire de Kateb, c'est cette double figure centrale dans son œuvre, celle de l'ancêtre et celle de la femme. Et le tandem femme-ancêtre est fondamental parce que précisément, c'est autour de ces deux figures que cristallisent toutes les aspirations à l'identité. Les ancêtres, disons que dans Nejma, ils sont représentés à travers la figure de l'ancêtre éponyme Kebloot, celui qui donne son nom à tous les descendants qui sont les principaux protagonistes qui gravitent autour de Nejma. La tribu est d'ailleurs celle de Kateb lui-même. Un ancêtre fondateur s'installe à un endroit, de préférence près d'une source, et diffuse le Coran, hein, donc le savoir de l'époque. Il est à la fois maître coranique et chef militaire. Et donc, en lui se conjoignent les deux grandes vertus de l'époque, le savoir et le pouvoir, hein, le pouvoir militaire. Avec la colonisation française, la tribu va être accusée du meurtre de la femme étrangère, du meurtre de la française, et donc comme punition, les autorités militaires françaises vont exécuter 6 chefs de branche de cette tribu. Arrive en dernière minute, mais trop tard, un justicier qui apporte la preuve de leur innocence, mais donc les 6 Kebloutis ont été exécutés. Pour réparation, en signe de réparation, on accorde le titre de caïd et de cadi, c'est-à-dire de chef militaire et de chef religieux, à leurs descendants, qui sont encore au berceau, raconte Simokhtar dans Nejma. Et donc, par ce phénomène-là, on a une dissociation de ce qui faisait la parité du monde entre soi, du monde endogamique, du monde tribal, Et là, les deux qualités, celle de la science et celle du pouvoir militaire, vont être dissociées. Et à partir de là, les Kebloutis vont se disperser, vont abandonner la terre ancestrale et vont aller en ville où ils vont dilapider les biens de la tribu. Et nous avons toute une période qui est la période des pères, qui est la période de désertion, de trahison en quelque sorte, et où les enfants des pré-chevaliers d'antan vont se perdre dans les bras des étrangères. Et donc, nous sommes dans la période de la déperdition. Et ce sont les fils qui, eux, vont essayer de retrouver la parole ancestrale et de reprendre la lutte. Et c'est à cette génération des fils qu'appartiennent les quatre protagonistes, les quatre cousins qui, amoureux, rivaux de Nejma.
Les fils qui sont des orphelins.
Les fils qui sont des orphelins et l'orphelinat...
Qui sont des frères et des cousins.
Qui sont à la fois frères et cousins, qui sont aussi d'une certaine façon frères de Nejma, laquelle Nejma a épousé, à qui on a fait épouser un certain Kamel, qui est supposé être son frère, puisqu'il est le fils putatif de Simokhtar. Bon, il y a toute une réflexion en quelque sorte sur la paternité qui s'entrecroise avec une réflexion sur la bâtardise et qui aboutit précisément à une sorte d'apologie de la bâtardise. Et il est tout à fait significatif que Nejma, qui est la fille de la tribu, est aussi la fille de l'étrangère, l'insatiable française, trois fois enlevée, et qui, dans le dernier enlèvement, dans un oubli sans vergogne, elle accueille deux frères, deux cousins, enfin frères, cousins, tout un thème de la gémellité qui est là aussi très fort. Donc Nejma, qui est fille de la tribu et fille de la française, va être érigée en symbole de la patrie. Et donc ça en dit long sur cette volonté d'intégration de toute la sédimentation d'apports autochtones et étrangers qui constituent et qui vont faire la singularité de l'Algérie.
Kateb Yassine, écrivain algérien de langue française, fondateur de la littérature algérienne moderne. Pas de description. Des hommes, des conflits, des errances. Une histoire d'amour avec la langue française. Mais la langue est une arme. Utiliser le français pour dire aux Français que je ne suis pas français. À force de rester seul, j'ai appris dans mes transes le langage des ombres. 1967, document d'archives.
Je suis né à Constantine en 1929. Je ne sais pas quel mois exactement. Ça arrive fréquemment en Afrique du Nord. Mon père était oukil, c'est-à-dire qu'il était une sorte d'avocat en justice musulmane. Et il était appelé à souvent changer de résidence, de sorte que nous avons beaucoup déménagé pendant ma jeunesse. Mon père était aussi voyageur par tempérament. Et j'ai tenu déjà de lui et de ma mère une espèce de pratique quotidienne de la poésie qu'on retrouve dans toute notre tribu. Ce qui est caractéristique de cette tribu, c'est précisément que dans son sein, un filon poétique qui se retrouve presque chez tous ses membres, de façon naïve, de façon plus approfondie, de façon plus ou moins affirmée. Mais ce qui est curieux, en tout cas, à première vue, peut-être pour un occidental, c'est d'imaginer qu'il y ait des milliers de gens, parce qu'une tribu n'est pas comme une famille, ça comprend des milliers de gens, et que ces milliers de gens aient en commun le don poétique. J'ai d'abord été à l'école coranique, très peu, et mon père était de double culture. Il connaissait l'arabe et le français, et c'est lui qui, la mort dans l'âme, j'ai d'ailleurs raconté ça dans le Polygone étoilé, qui m'a dit il faut être réaliste. Actuellement, en Algérie, la langue française est dominante, c'est la langue qui domine. Si tu veux vraiment faire quelque chose, si tu ne veux pas être dans la fausse position où j'ai été moi-même, il faut d'abord commencer par dominer et apprendre cette langue dominante, le français. Pour ce qui est de l'arabe, il ne sera jamais trop tard pour y revenir, puisqu'il y avait lui, il y avait ma mère. Mais les choses ont tourné autrement, parce que dès que j'ai quitté l'école coranique et que je me suis mis à apprendre le français, j'ai été pris d'une espèce de passion de la langue et de la poésie, très jeune, à partir de, je ne sais pas, 8 ou 9 ans. J'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir une institutrice qui m'a poussé dans cette voie. Mon père lui-même n'était pas contre, c'était plutôt un complice puisqu'il versifiait à tout moment. Ma mère, enfin personne n'était contre. J'avais, dès le début, ça a été pour moi une chose toute naturelle qui m'a poussé évidemment à aller un peu trop loin parce que vous voyez ce que ça suppose quand on est un petit garçon. D'une part, on est avec sa bande, avec les camarades, on est avec la horde enfantine. Et puis de l'autre côté, la poésie est une espèce de solitude. Et quand je suis devenu collégien, plus tard au collège de Sétif, c'était alors beaucoup plus dur parce que là, les camarades se moquaient du poète qui s'enfermait ou qui écrivait des vers, enfin, qui n'était pas comme les autres. À ce moment-là, il y a eu pour moi une espèce de nuit de solitude qui a commencé jusqu'au moment où j'ai découvert les idées révolutionnaires, jusqu'au moment où, en classe, on a commencé à se passer les premiers journaux progressiste, révolutionnaire, nationaliste, communiste, etc. Ça a été comme une flamme dans un baquet d'essence. Tout de suite, ça m'a pris. Et puis les événements se sont précipités. Il y a eu les manifestations de 1945. Je me trouvais dans la rue. J'ai été pris, emprisonné. Toute la famille a été profondément bouleversée par ça. Du point de vue personnel, j'ai basculé vers la politique, si vous voulez. J'ai basculé vers ce qui était pour moi la révolution, mais encore très théorique. Et surtout livresque. Parce que je vivais dans un monde français, je lisais des livres français. Lorsque je pensais à la révolution, je ne sais pas, je pensais à Napoléon, au Kléber, mais je ne voyais pas le peuple algérien qui était devant moi tous les jours. C'est en prison que je l'ai vu.
باش تلقوا الغامض بكلام معنوي يشعل الظلام في نور النهار الممنوعة والبقالة ديال بويا البقالة ديال بويا البقالة ديال بويا بقالة ديال بويا بكلام معنوي بكلام معنوي
كريستيان أشور.
Le 8 mai 45, donc c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale et les Algériens ont espéré que dans la foulée de la libération, il y aurait libération des colonies. Et donc, cela ne s'est pas passé ainsi. Et donc, il y avait tout un certain nombre de tractations ou au contraire de désirs de démarrer une lutte plus insurrectionnelle que politique qui a provoqué une décision de cette manifestation et qui a été fortement réprimé.
C'est une expérience fondamentale pour lui, ça, la manifestation de,
je crois,
du 8 mai 1945.
Enfin, il avait 15 ans, je crois qu'il l'a toujours dit, et je crois qu'effectivement, ça a été une expérience fondamentale, parce que tout d'un coup, il est sorti de ses livres pour prendre conscience qu'il y avait autre chose à faire. Hein, et c'est quelques mois plus tard qu'il prononce une conférence sur l'émir Abdelkader et l'indépendance algérienne. Il est tout jeune. Il a 17 ans. Il fait cette conférence qui reste un texte tout à fait passionnant à lire.
Certains disent qu'il y a eu 40 000 morts à Sétif.
Il y a eu certainement beaucoup plus de morts que ce qu'à l'époque on a dit. Ça avait été effectivement une énorme répression.
14 membres de la famille de Kateb,
oui,
sont morts.
Oui.
Lui s'est retrouvé à 15 ans sous un monceau de cadavres.
Et puis il s'est retrouvé surtout en prison. Hein. Donc ça, c'était une expérience que beaucoup de jeunes de cette époque ont faite et qui est une expérience très marquante.
Sa mère l'a cru mort.
Sa mère l'a cru mort et donc c'est à la suite de ça qu'elle est devenue folle. Et non, je crois que c'est vraiment une expérience qui a été complètement formatrice d'un seul coup. Pour quelqu'un qui avait quand même des dispositions à la révolte et à la remise en cause de l'ordre dans lequel on voulait l'intégrer.
Il dit qu'en prison, il a découvert et il a compris vraiment le peuple. C'est très important pour lui, le peuple.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que là, il n'était plus le petit lycéen un peu privilégié qui était dans son lycée, parce qu'il faut voir que n'arrivait dans le secondaire qu'une minorité d'Algériens. Donc tout d'un coup, en prison, et ben, ça a été son école, sa seconde école. Tout d'un coup, il a vu d'autres Algériens qui n'avaient pas eu sa chance, entre guillemets, et donc qui étaient dans la misère. C'était la fin de la Seconde Guerre mondiale, en plus, dans l'exclusion par rapport à tout ce qui dominait en Algérie, que ce soit la langue, le pouvoir, la culture, etc. Alors à ce moment-là, oui, il a eu cette nouvelle école qu'il a formée définitivement dans le combat pour la libération du pays. Kateb était perçu comme un écrivain rebelle et il est devenu très vite un mythe. Pour moi, l'écrivain mythe, c'est celui dont on parle alors qu'on n'a jamais rien lu. Hein. Nejma est devenu cette sorte de point vers lequel on se dirigeait. Et je me souviens qu'en 86, donc 86, on a fait une grande fête dans une salle des fêtes qui est au centre d'Alger, dans ce qu'on appelle le souterrain des facultés. Donc une salle où les gens pouvaient rentrer, c'était l'université qui l'organisait, le département de français. On avait appelé ça la femme de 30 ans, c'était une fête pour Nejma. Et Kateb est arrivé de Grenoble, mais c'était délirant. Tous ces jeunes qui étaient là, des moins jeunes, etc. Lui-même était un homme excessivement modeste et timide, donc il arrivait un peu en se tenant là, un peu comme Fernand Reynaud dans les films où il ne sait pas comment se tenir. Et il était à la fois honoré de tout cela et en même temps terriblement intimidé par cette sorte de ferveur. Et je me souviens qu'il avait beaucoup de mal à dire des choses. Et il a dit, il y a une chose dont je me souviens parce qu'il n'a pas beaucoup parlé, il a dit aux étudiants, parce que c'était une majorité de jeunes, si vous êtes là aujourd'hui pour Nejma, parce que vous n'êtes pas là pour moi, c'est pour Nejma, c'est parce que quand j'ai écrit Nejma en 56, je cherchais l'Algérie et je crois qu'aujourd'hui, vous aussi, vous la cherchez. Ça, c'était en 86 et c'était vraiment une phrase toute simple, ça c'est Kateb.
C'est un jeune homme très très brillant qui, arrivant à Paris en 49, je crois, ou 48 ou 49. À l'âge de 20 ans, est aussitôt accueilli par des gens qui comptent énormément dans la vie intellectuelle en France, à l'époque.
Gilles Carpentier.
Que ce soit Albert Béguin, que ce soit Camus, vraiment des gens qui l'accueillent très très bien. Et puis je crois qu'il y a ce grand malentendu de Nejma. C'est-à-dire que Nejma est un texte dont il achève la rédaction dans ces années-là, en 49 ou en 50. Après ça, c'est tout un travail de mise au point du texte, de coupe, d'ajustement. Et le livre paraît en 56. Entre les deux dates, il y a quand même eu la Toussaint 54 et il s'est passé énormément de choses entre les deux. Et je crois que tout d'un coup, il apparaît comme étant un héros de l'indépendance algérienne, ce qu'il n'a jamais voulu être. Il a toujours été plutôt attiré par un certain cosmopolitisme. On ne peut en aucun cas le soupçonner d'être complice de la colonisation. Mais il n'est pas non plus un nationaliste acharné. Et il est vrai qu'à l'époque, on voit moins cette chose-là. Et je crois qu'il aura toujours vécu sur ce malentendu, que son errance, elle est beaucoup due à ça.
Gilles Carpentier, quel est le génie de Kateb Yassine, pour vous?
Oh, je dirais Orient-Occident. Je dirais que c'est quelqu'un qui a complètement retourné la problématique orientaliste. Katebessine dit souvent que l'auteur qui l'a le plus influencé lors de ses lectures adolescentes, c'est Gérard de Nerval. Je pense d'ailleurs qu'on en trouve de grandes traces dans Nejma. Nejma, c'est une fille du feu. Et il ne faut pas oublier que Gérard de Nerval est l'auteur d'un voyage en Orient largement mythifié, puisqu'on sait que le voyage tel que le raconte Nerval, c'est pas comme ça qu'il l'a accompli, qu'il invente beaucoup, qu'il transforme beaucoup, qu'il mélange plusieurs voyages en réalité. Voilà, Katebessine réussit ce retournement, c'est-à-dire de reprendre à son compte l'orientalisme occidental pour le renvoyer dans les gencives de l'Occident, mais en même temps aussi pour mettre l'Orient en face de l'image qu'il donne. Ce que dit Katebessine, grosso modo, c'est ce que fait l'Orient au sens large aujourd'hui, c'est de mimer l'Orient tel que l'Occident l'a vu. Et moi, je vous donne l'Orient tel qu'il est réellement. L'Algérie, je ne vous la donne pas comme étant une nation qui se dresse fière, je vous la donne comme des clans qui se massacrent les uns les autres, et ce, depuis au moins 2 siècles. Et je vous dis que c'est ça, c'est pas du tout les fiers seigneurs tels que l'orientalisme occidental l'a donné. Voilà, moi je crois que c'est ça la grande importance de Katebessine, c'est qu'il ne... Il ne construit pas des ponts entre Orient et Occident, il a plutôt tendance à les miner, les ponts, à montrer que ces ponts sont des ponts artificiels, et à essayer de montrer que la réalité, c'est celle du conflit, et d'où d'ailleurs sans doute son intérêt particulier pour le théâtre, qui est par excellence le lieu d'expression des conflits. S'il y a un génie poétique chez Katebessine, il est tout entier du côté de la grande histoire de la littérature et de la poésie. Je crois vraiment que ces grands modèles, ces grandes références, c'est Rimbaud, c'est Nerval, je l'ai dit, c'est Baudelaire, parce que n'oublions pas non plus la haine de soi qui aujourd'hui paraît quelque chose de tellement vilain, mais qui a joué un rôle très très important dans la construction de nombre de cultures. Mais c'est aussi Faulkner. L'opposition qu'il établit entre Faulkner et Camus me semble très très intéressante. Il explique, oui, bien sûr, Camus, c'était un homme de gauche, c'était un homme antiraciste, voilà. N'empêche qu'il n'y a pas un Algérien dans son œuvre. Faulkner, c'était peut-être un réactionnaire, il était peut-être raciste et tout ça. N'empêche qu'on n'a jamais vu les Noirs américains comme on les voit dans l'œuvre de Faulkner. Et il est clair que sa préférence va à Faulkner plutôt qu'à Camus.
Katebessine, poète errant, une vie d'exil, la France, l'Europe, la Russie, le Vietnam, l'Algérie. Écrivain public à Paris pour ses compatriotes dans les années 50, Kateb se veut écrivain du peuple. 1967.
J'ai un côté, si vous voulez, assez barbare. J'en rejette en partie la culture. C'est un grave dilemme que d'être obligé à la fois de vivre, d'écrire et de se cultiver. On ne peut pas faire les trois, et surtout si on veut en plus faire œuvre de révolutionnaire et en plus rester libre dans la vie, libre toujours, libre de tout voir, et si on veut pousser les choses jusqu'au bout. Alors évidemment, il faut choisir. Il faut choisir par exemple entre aller au théâtre tous les soirs, ou aller dans la rue et voir les gens, ou alors s'enfermer et écrire. Je sens que j'ai tellement de choses à dire qu'il vaut mieux que je ne sois pas trop cultivé. Il faut que je garde une espèce de barbarie. Il faut que je reste barbare. Ça a l'air facile, mais c'est très très difficile. Parce que... il y a toujours, surtout dans une ville comme Paris, la tentation du cosmopolitisme. La tentation de vouloir acquérir des notions de culture qui, en fait, ne sont pas essentielles. Qui sont des choses qu'on peut avoir connues. Mais pour celui qui veut créer, vraiment, ou celui qui veut abattre, ça peut le gêner. Or, moi, je sentais qu'il y avait beaucoup de choses à abattre. Par exemple, au départ, si je n'avais pas choisi Rimbaud et si je ne m'en étais pas tenu là, si j'avais voulu assumer toute la culture française, si j'avais voulu une espèce de fringale de la culture, je serais devenu ce que je reproche d'être à beaucoup d'écrivains, c'est-à-dire une espèce de monstre qui a une espèce de glouton, qui a dévoré des tas de plats étrangers, qui ensuite en fait un, pour dire, voilà, je connais la cuisine universelle. Mais en fait, ce n'est pas ça, un poète. C'est quand même très difficile. Parfois, il faut toute une vie. Il faut aussi beaucoup de solitude. Et puis, il faut chercher ce que je n'ai pas encore trouvé. Moi, c'est la vie profonde du pays, en Algérie. Et en Algérie, les plus cultivés, c'est les analphabètes. Ceux qui m'en apprennent le plus, ceux avec lesquels j'ai du plaisir à être, c'est ceux-là. C'est des chômeurs, par exemple, qui n'ont jamais été à l'école. C'est les plus riches. Dès qu'ils se mettent à parler, et là, c'est tout un travail, parce qu'il y a un côté presque policier dans le poète. Il faut les faire parler. Il faut trouver les moyens de les toucher dans leur fibre. Et alors là, on s'aperçoit qu'il y a toute une humanité extrêmement riche, une espèce de cours de miracle, si vous voulez, pour parler comme Victor Hugo, si vous voulez, une espèce d'immense richesse enterrée dans l'ignorance d'elle-même, mais aussi dans le fait que, en général, les écrivains et les hommes de culture ne voient jamais ça, ne vont jamais là. Par exemple, nous avons vraiment de très grands poètes qui sont des analphabètes, qui n'ont jamais su ni lire ni écrire, donc qui ne connaissent ni Shakespeare, ni Eschyle, ni rien. Et parfois, c'est mieux. Parce que très souvent, par contre, ce que nous appelons les lettrés, chez nous, les gens que vous verrez, professeurs d'université, etc., ils sont d'un horrible mauvais goût et d'une impuissance, enfin, criante, dès qu'il s'agit de vraie poésie.
Ce qui est vraiment moderne, c'est d'abord cette fragmentation du texte qui ne se donne pas comme une continuité unifiée, harmonieuse, etc., qui ne recule pas devant les hiatus, qui ne colmate pas de façon artificielle les coupures, les ruptures. C'est par ailleurs une œuvre où il n'y a pas de personnage central et où l'héroïsme, en quelque sorte, est réparti entre plusieurs protagonistes. On a ce mouvement qui est à la fois circulaire, qui est à la fois de regret, d'avancée, de retour, de départ. On est dans une écriture où, en permanence, le sillon doit être creusé un peu plus, où l'on tourne autour d'un personnage, où l'on tourne autour d'un événement, où l'on tourne autour d'un thème ou d'une idée, sans pouvoir en décrire toutes les facettes, sans pouvoir en donner un aspect. D'une part, il y a l'incompétence, entre guillemets, linguistique, ou l'inadéquation, mais qui ici se double du fait que on est sur deux écritures en même temps, sur deux langues en même temps. Même si le texte ne se réalise que dans l'une, l'autre est en permanence sous-jacente, avec ses maîtres mots qui, de temps en temps, affleurent à la surface du texte. Et donc, on est toujours dans un sentiment de regret, toujours dans un sentiment d'infinitude, dans un sentiment de manque.
Najet Rada, vous connaissez cette citation de Jacques Berck. D'un bout à l'autre du monde méditerranéen, un motif ornemental revient, avec une puissance presque obsédante, c'est une sorte de rosace, ou plutôt un polygone, pointant vers l'extérieur des angles offensifs. Et Kateb racontait qu'en 58, quand il a rencontré Jacques Berck à Tunis, il a décidé que tout son travail littéraire procéderait, ou avait procédé depuis son origine, de la figure du polygone étoilé.
Oui, ce sont des figures, les figures géométriques de façon générale, mais la figure du polygone de façon plus particulière, sont les figures dans lesquelles s'exprime ou s'est exprimé de façon séculaire l'imaginaire maghrébin. Et on le voit encore aujourd'hui dans les motifs décoratifs des productions artisanales. Le Maghreb d'ailleurs, comme le monde arabe de façon générale, et encore plus ancien le monde hébraïque, sont des aires culturelles qui relèvent d'une d'une spiritualité de la non-représentation. Et donc, les formes abstraites sont les formes à travers lesquelles s'exprime l'imaginaire et les mythes. Et donc, le polygone est une des formes privilégiées de la civilisation maghrébine, à travers lesquelles se réalisent aussi, d'ailleurs, les formules d'exorcisme. Et Kateb Yassine appartient à cette génération d'Algériens qui a vécu le drame de la coupure linguistique, mais qui n'a pas réalisé à temps que cette coupure linguistique était encore plus profonde que cela, puisqu'elle représentait aussi une coupure de avec la représentation, avec la matrice représentative du symbolique.
Après sa mort, je suis parti défendre, parce que je crois que c'est une des parties importantes.
Armand Gatti.
De lui, de sa personne. Enfin, et puis, alors là, c'est des choses que je revendique parce que je le considérais comme un frère et il me considérait comme un frère. Et donc, je suis parti uniquement pour défendre.
Vous êtes parti en Algérie.
En Algérie, je suis parti en Algérie, bon, défendre la langue de Kateb. Et bon, ça s'est terminé derrière Alger. On pensait même que j'allais avoir l'attentat dans à l'ambassade. On pensait que de faire ce genre de déclaration, je leur ai dit, suivez la voix de vos poètes, ce sont eux vos seuls prophètes, votre langue c'est la langue de Kateb. Alors il est évident qu'il y a ceux qui pensent que disons, les choses peuvent se régler par les armes, et Kateb et moi on pensait que c'était beaucoup plus par le verbe, par la parole, quoi. Et défendre la langue de Kateb. Et en la conseillant à tout le peuple algérien, en disant, c'est ça votre langue, c'est la langue de Kateb.
Le cadavre encerclé, la première pièce de Kateb Yassine, une pièce très écrite. 25 ans plus tard, de nouveau, le théâtre. Mais cette fois-ci avec une troupe. Action culturelle des travailleurs. C'est le nom de la troupe de théâtre que Kateb anime pendant 10 ans en Algérie, où il finit par se retrouver en exil intérieur. Montrer la réalité, ouvrir les fenêtres. Le théâtre est un instrument de lutte politique, pas de propagande.
Ici, je rampe encore pour apprendre à me tenir debout, avec la même blessure ombilicale qu'il n'est plus temps de recoudre.
Slimane Benaïssa, vous êtes metteur en scène, vous jouez en ce moment Les Fils de l'Amertume, qui est une pièce sur l'Algérie contemporaine. Vous avez travaillé avec Kateb Yassine. Quel souvenir est-ce que vous avez de toute cette époque? Parce que ça a duré quand même très longtemps, tout ce travail. C'était du théâtre vraiment d'agitation en Algérie. C'était dans les années 70, vous avez travaillé quand avec lui?
J'ai travaillé avec Yassine. Sur ces textes, le problème, c'était le retour de Yassine en Algérie. Nous, on avait créé en 68-69 une troupe de théâtre amateur qui s'appelait Théâtre et Culture. Donc, j'ai adapté en arabe dialectal La Poudre d'intelligence. Et on l'a joué la première fois en 69 à Alger. Et quand il a appris ça, il vivait en France, lui, à l'époque. Il m'avait écrit une très belle lettre, d'ailleurs, des éditions Le Seuil, me disant « Je te remercie d'avoir redonné au peuple algérien ce qui lui appartient de droit. » Et il est rentré en Algérie voir la pièce, et c'est là où il a décidé de rester, en me disant un soir comme ça, au bout d'une fête, il me dit « S'il y a une place pour Nuages de fumée, il y aura une place pour Kateb Yassine dans ce pays. » Il est resté, il a créé à ce moment-là, avec le Théâtre de la Mer, sa troupe au ministère du Travail, Et on a démarré le travail de Mohamed Brantavalise, la Palestine trahie, la guerre de 2000 ans et la guerre de l'Ouest.
Comment ça se passait le travail? Parce que c'était pas du tout un auteur qui écrivait un texte, coupé des comédiens.
Non, il m'avait remis 900 pages. D'ailleurs, je crois qu'il y a des textes inédits, hein, et qui s'appellent l'anaphrasie. C'est à travers le personnage de Nuage de Fumée, le rabbin, le curé et le mefti. Voilà les quatre personnages. Et c'était une somme de scénettes qui se passaient en Palestine, qui se passaient en Égypte, qui se passaient en Algérie, au Maroc, partout. C'est une collection de scènes avec ces trois personnages, sans aucun lien comme ça apparent. Et c'est de là qu'il a tiré toutes ces pièces. Donc, il me disait de prendre telle séquence du Mefti, de la traduire, et on l'a montée. Donc, si vous voulez, le théâtre de Ketbessine est fait avec des modules comme ça, qui sont du genre de puzzle, de morceaux de puzzle, et qui pouvaient, en le montant d'une certaine manière, donner une pièce différente complètement. Et c'est comme ça qu'on retrouve, par exemple, dans toutes les pièces, des traces de nuages de fumée, qu'on retrouve des traces du cadavre encerclé, on retrouve partout. L'œuvre de Ketbessine, on a l'impression qu'elle est une, et c'est un retour constant sur ce même terrain. On a l'impression qu'il n'a jamais enlevé du métier à tisser sa première tapisserie, quoi. Qu'il a passé toute sa vie à la faire et à la refaire. Et elle est à chaque fois différente. C'est extraordinaire comme façon de travailler, façon de faire.
Il écrivait en français?
Lui en français. Il ne savait pas écrire en arabe, il n'a jamais écrit en arabe. Mais quand on lui donnait un texte en arabe, il savait le reconnaître. Donc j'arrivais le matin avec mon texte, ma traduction. Je lui proposais plusieurs variantes. Au début, l'apport de tous les jeunes qui l'entouraient était très important. Sur le plan de la chanson, sur le plan du jeu, sur le plan de la perception de la scène, tout le groupe était son premier public. Et comme lui, il ne savait pas comment, avec ce public algérien, lui parlant arabe, avec sa préoccupation. Donc nous étions un peu sa première référence à la sensibilité de ce qui était dit. Mais là où moi, par exemple, je n'étais pas d'accord avec lui, on a eu des débats terribles là-dessus, parce que j'adorais ce qu'il faisait. C'était notre aîné, il avait une façon d'être dans la vie qui était passionnante pour nous. Par exemple, quand on a fait Mohamed Brantavalise, il me donne à traduire la révolution du 17 octobre. Et lui, il a contracté toute la révolution d'octobre en une minute de scène, ce qui est génial. Et d'ailleurs, c'est son génie. Et donc, pour lire réellement cette minute-là et voir les drapeaux rouges sortir sur scène avec la chanson de Potemkin, il faut quand même connaître un bout sur la révolution bolchevique. En français, ça passe très bien parce que c'est un référent qui existe, vu le référent populaire. Mais en Algérie, contracter la révolution bolchevique, ils n'ont jamais entendu parler de cette histoire. Ils ne la connaissent pas du tout. Il voit subitement comme ça des drapeaux communistes sortir sur scène. Il est un peu abasourdi. Il ne comprend pas. Et c'est là où je lui disais, mais la démarche ne peut pas être la même. On ne peut pas que traduire, il faut adapter. Il a toujours refusé de le faire. Pour lui, le passage au populaire était au passage linguistique simplement. Alors que ce qui est populaire quand on parle, c'est aussi une certaine logique. C'est une logique qui appartient au peuple, ce n'est pas simplement la langue. Moi, j'ai fait l'expérience doublement. Quand je parle en français, en restant dans la logique des Algériens, dans la logique populaire, ils me comprennent, même s'ils comprennent difficilement le français. Et quand je parle en arabe dialectal avec une logique française ou une logique en arabe classique, même s'ils reconnaissent la langue, ils ont des difficultés à rentrer dans le raisonnement, à rentrer dans l'entendement de ce qui est en train de se dire.
Et donc, petit à petit, j'ai commencé, grâce à cette expérience avec Yassine, à cerner exactement ce qui est populaire au théâtre. Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est la préoccupation? Est-ce que c'est la manière de lui dire la chose? Ou est-ce que c'est la manière de raisonner comme lui? C'est-à-dire à partir de ses raisonnements à lui qu'il faut arriver à développer une culture, à développer un autre champ d'expression et lui faire admettre. Et vers la fin, il s'est tari par un excès de méfiance envers tout le monde, et ce qui est tout à fait légitime, c'est vrai. C'est vrai que on pouvait croire en personne en Algérie, quoi. La preuve, jusqu'à présent, on est encore dans le sang.
Plus il a la volonté de travailler collectivement, plus il se retrouve seul.
Jules Carpentier.
Plus il est abandonné par... J'assure, parler aujourd'hui avec des écrivains algériens de sa génération, il n'y a pas beaucoup qui vous diront du bien de Kateb Yassine. Maintenant, il est mort, donc éventuellement, on pourra mettre de l'eau dans son vin. Mais il a été détesté à cause de sa reconnaissance par l'intelligentsia que n'ont pas eu certains autres, et aussi à cause de ce refus absolu des compromissions qui a toujours été celui de Kateb Yassine. Mais je crois qu'il y a vraiment des haines tenaces contre Kateb Yassine, et même presque 10 ans après sa mort.
Zoubaïda Cherghi, veuve de Kateb Yassine.
Yassine est un homme d'une très grande simplicité. Il est un peu l'héritier des poètes. Moi, je considère un peu qu'il est, dans son mode de vie, un peu l'héritier des romantiques, c'est-à-dire un peu ces Verlaine, Rimbaud, un peu traînant avec les mauvais garçons, avec le... fréquentant toute une espèce d'humanité, mais de haut en bas, enfin, je veux dire, aussi bien de la plus populaire jusqu'à la plus aristocratique culturellement, si vous voulez. C'était un homme de contact, c'était un homme de foule, c'était un homme d'amitié, de fidélité d'ailleurs dans ses amitiés, et très très simple. On pouvait le croiser dans un café, on pouvait le rencontrer avec des amis, ce qui fait que tous ceux qui l'ont approché se sont crus dépositaires de sa pensée ou de son œuvre, ou je ne sais pas, en tout cas dépositaire du fait d'avoir eu cette amitié-là, d'avoir eu le privilège, si vous voulez, d'un peu de familiarité avec lui. Je pense que c'est ça qui a dû faire qu'il y a eu tant de rivaux et de prêts et de supposés héritiers. D'ailleurs, la preuve en est, c'est par exemple quand son enterrement, par exemple, où il y a eu, mais c'était une émeute, il y a eu des milliers de personnes qui sont venues, il y a eu des... C'était incroyable, quoi. Mais c'est aussi, l'envers de la... c'est des rivaux, voilà. Et on a beaucoup comparé ça à l'époque au cadavre encerclé. On a dit, c'était vraiment le cadavre encerclé, quoi.
Et puis, bon, il a retrouvé, quelquefois il y avait quelques âmes damnées qui le poursuivaient, enfin, Harry Kess, bon, je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais enfin, si, les dernières nouvelles que j'en ai eues, lorsque je suis repassé en Algérie, il était devenu gardien de prison. On me demande qui gardait qui, enfin. Gardien de prison, alors lui c'était... Mais toujours cette espèce de, disons, de fraternité terrible de Kateb, même, à, disons, avec une façon de... Je me souviens toujours de cette chose qui me touchait beaucoup, c'est lorsqu'il il amenait un de ses amis qu'il avait rencontré je ne sais où, il l'amenait à la maison, et puis ça repartait, et puis il revenait à peu près, disons, un quart d'heure après, et il dit, allez, donne-lui tout. Alors l'autre sortait tout ce qu'il m'avait fauché, alors des cuillères, des machins, tout ce qu'il y avait. Et Kateb, c'était jamais il n'aurait accepté, enfin, jamais. Et donc, de temps en temps, disons que les gens qui étaient en contact et qui... Lui disait que ça nourrissait son génie, mais enfin, bon, et peut-être, pourquoi pas, enfin, etc. Donc c'était des gens nécessaires, donc à accepter en tant que tels, quoi. Et donc, mais disons que, c'est-à-dire que c'était un tout, la fraternité, c'est-à-dire, non, c'était l'humour surtout. Moi, c'est Kateb qui a donné la plus belle définition de la mosquée, enfin. Lui, une mosquée, c'est une fusée qui n'a jamais décollé. Alors, évidemment, rien que cet humour, comme ça, évidemment, lui faisait des ennemis. Alors, évidemment, qui en faisait, enfin, de tout, enfin. Un ivrogne, un achichoman, etc., etc. Alors qu'il était une chose avant tout, il était Kateb. Et une deuxième chose après, il était un grand écrivain. بعدت سرق وتفسوس قبور ذيثرا حجبان ملق جمورا قزف في ذقاكين ذنيان ملال داكوات وخامث ما شاهو تزلان ملق جمورا قزف في ذقاكين ذنيان ملال داكوات وخامث ما شاهو تزلان يا لا لا يا لا لا ملال داكوات وخامث
Algérien par mes ancêtres, internationaliste par mon siècle, Kateb Yassine est mort à 60 ans d'une leucémie en exil à Grenoble. Une vie, une œuvre, Kateb Yassine, le poète errant, 1929-1989, une émission de Marion Thibat, réalisation Ghislaine David, avec Armand Gatti, Najet Rada, Gilles Carpentier, Slimane Benaïssa, Christiane Achour, Zoubaïda Chergui, avec la voix de Kateb Yassine et avec un extrait de la chanson « Algeria » interprétée par le fils de Kateb Yassine, Amazir Kateb. Documentation INA, Florence D'Artois. Extrait d'interview réalisé par Jean Amrouche, Moussa Abadi, Lucien Atoun. Le fonds Kateb Yassine est consultable à l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Texte dit par Laurence Bourdil, prise de son Arthur Gerbeau, mixage Monique Burguière, Emmanuel River.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, lien, réécoute, podcast, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Le week-end prochain, nouveau jeu des pères, Les Amants Terribles, Zelda et Francis Scott Fitzgerald.